semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'actualité grâce à la richesse des reportages de la rédaction. Le sommet de Singapour sera au cœur de notre émission, mais nous irons aussi en Afrique. Vous savez que vous pouvez retrouver ce magazine sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Notre invité cette semaine est Yann Mince, spécialiste des questions internationales, journaliste au magazine Alternative Économique. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir à ce micro, comme à chaque fois, tous les deux mois.
Merci.
À peu près. Vous avez chaussé vos chaussures à crampons ?
Mes chaussures à crampons, je crains que pas être très doué sur les terrains de football, mais je vais suivre inévitablement, comme tout le monde, ce qui va se passer en Russie.
Vous avez 4 semaines difficiles devant vous ?
Difficile, non. Moi, j'ai décidé de soutenir le Panama et le Costa Rica, parce que je pense que ce sont les deux plus petites équipes, ou les deux plus petits pays, plutôt, dans cette histoire.
Donc, voilà, vraiment l'esprit sportif.
Absolument.
Yann. Quelle semaine que celle que nous venons de vivre, entre le sommet de Singapour et même le sommet du G7. Quelques jours auparavant, on va parler de tout ça, mais je voudrais simplement dire que demain, dans l'idée, nous inviterons Régis Debray. Vous le connaissez, Yann, philosophe, écrivain, qui, dès l'âge de 25 ans, s'est lancé dans la guerre à côté de Che Guevara et Castro. Il sera avec nous demain dimanche à 17h10 dans notre magazine Idées. Alors avant de partir pour Singapour, Yann, jetons un dernier regard sur le G7 d'un genre particulier qui s'est déroulé au Canada le week-end dernier, d'un genre particulier avec un président américain qui ne l'est pas moins, à la Malbaie où s'est déroulée cette rencontre. Écoutez ce que nous disait notre envoyé spécial Mounia Daoudi.
Décidément, Donald Trump aura imposé son tempo avant, pendant et après ce G7. En arrivant en retard, en mettant la question du retour de la Russie à l'agenda des discussions, en acceptant après des négociations très vives le principe d'une déclaration finale commune, avant de faire volte-face et de rejeter ce texte. Le président américain avait pourtant affirmé juste avant de quitter la Malbaie qu'il avait eu un dialogue très constructif avec ses partenaires du G7. Il avait même donné la note de 10 sur 10 à la qualité de ses relations avec Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore Justin Trudeau, celui-là même qu'il accuse aujourd'hui de mentir. Donald Trump, qui a quitté le sommet avant même la fin des travaux, a attendu que tous les leaders du G7 expriment leur satisfaction après un G7 très dense pour balayer d'un tweet tous leurs efforts. Difficile de dire pour l'instant quelles conséquences aura sa décision de ne pas signer cette déclaration commune. Une chose est sûre, la confiance est aujourd'hui brisée dans ce club très fermé des nations industrialisées qui, depuis des décennies, a fonctionné dans la concertation.
Ce fut un G7 d'un genre particulier, je reprends cette expression, mais j'ai l'impression qu'elle est justifiée. Là.
Oui, il y a une part de théâtralisation toujours dans ce genre de sommet, et notamment de la part de Donald Trump. Je crois surtout que Donald Trump est quelqu'un qui croit aux alliances sujet par sujet et pas aux alliances générales. Ce que je veux dire, c'est que quand il a besoin des Européens, quand il arrive à trouver qu'un accord des Européens, c'est très bien, sur une question commerciale, militaire, etc. Mais le fait qu'il trouve un accord sur une question militaire ne veut pas dire sur une question commerciale, il va forcément être d'accord. Donc c'est au cas par cas, c'est business. C'est on n'est pas alliés, on est juste un partenaire d'intérêt. Et là, en l'occurrence, il aurait voulu, je pense, que les Européens et les Japonais fassent ce qu'ont fait avant les Coréens et les Brésiliens, c'est-à-dire qu'ils cèdent sur les affaires d'acier et d'aluminium, puisque Trump veut imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium des pays européens notamment et du Japon. Et il l'avait déjà fait pour les Sud-Coréens, les Brésiliens, qui ont accepté du coup de réduire leurs exportations vers les États-Unis. Ce que voudrait Trump, c'est qu'en fait, les Européens lui cèdent. Et les Européens, assez légitimement, les Japonais disent non, il n'y a pas de raison qu'on lui cède. Maintenant, le rapport de force en faveur de qui il est, c'est ça qu'on va voir, parce que pour que les Européens résistent, il faudrait qu'ils en appellent à l'OMC. L'OMC, ce sont des procédures très très longues, donc c'est pas sûr qu'ils vont avoir les moyens de rétorsion très fortes.
Les Européens qui ont quand même relevé les droits de douane sur certains produits, notamment en provenance des régions où il y a un fort électorat de Donald Trump.
Bah, ce que font les États européens, effectivement, c'est qu'ils frappent des circonscriptions américaines, sachant qu'il y a des élections de mi-mandat, donc le renouvellement du Congrès d'une partie partie du Congrès, en tout cas en novembre, que Donald Trump est très attentif à cette élection parce qu'il veut pas perdre la majorité qui le soutient au Congrès, mais que de leur côté, les Européens ont effectivement fait des mesures ciblées sur les jeans, sur les Harley Davidson, sur le Bourbon, je crois, qui sont produits dans les circonscriptions de leaders républicains importants pour voir si effectivement ils peuvent jouer le Congrès américain contre le président américain.
Mais cela pose aussi la question de l'utilité de ce genre de réunion, de sommet, de G7.
Il y a la question du G7 en lui-même et des sommets. Les sommets, j'aurais tendance à penser qu'ils sont utiles, effectivement, parce qu'il vaut mieux que les dirigeants du monde se parlent plutôt que de s'invectiver à distance. Il vaut mieux qu'ils se connaissent, qu'ils se parlent. Ça ne garantit pas qu'il n'y ait pas de tension, mais au moins, ça évite qu'il y ait des incompréhensions et qu'on monte chacun en tour, comme on dit, de son côté. Maintenant, le G7 lui-même, c'est une formule assez étrange, parce que ça veut dire qu'il y a des pays qui seraient plus importants que d'autres, ou en tout cas qui auraient des intérêts en commun, mais à ce moment-là, pourquoi le Japon et pas d'autres pays? Pourquoi la France? Pourquoi la Grande-Bretagne? Enfin, le G20, à la limite, aurait plus de légitimité, puisqu'il réunit aussi les pays émergents. Si on veut prendre des gens qui pèsent sur la scène internationale, simplement, le G20 est très très divisé.
Direction Singapour maintenant, Yann, avec un sommet historique. Là, on peut vraiment utiliser le mot, puisqu'il est le premier entre un président américain et un dictateur nord-coréen. Ici, Donald Trump, bien sûr, et Kim Jong-un, qui était content.
Aujourd'hui, nous avons eu une réunion historique. Nous avons décidé de laisser le passé derrière nous et nous allons signer un document historique. Le monde va voir un changement majeur. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à Donald Trump qui a rendu cette rencontre possible.
D'évidence, l'important avec ce sommet, c'est qu'il ait eu lieu, car pour le reste, rien de particulier à signaler à Singapour mardi. Anne Corpé.
Nous sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre entre nos deux nations, a déclaré le président américain à l'issue de la cérémonie de signature. Le texte ne fixe aucune échéance précise, ne contient que des engagements de principe sur le rétablissement de la paix, l'élaboration d'une nouvelle relation entre les États-Unis et la Corée du Nord et la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les termes « vérifiables » et « irréversibles », si souvent qualifiés d'indispensables par l'administration américaine, ne figurent pas dans le document. Mais c'est le début d'un processus. Les négociations vont se poursuivre dès la semaine prochaine, a affirmé le président américain qui a annoncé deux mesures concrètes, la suspension des exercices militaires conjoints entre Américains et Sud-Coréens et la fermeture prochaine d'un site de test de missiles, promesse faite par Kim Jong-un juste après la cérémonie de signature. Donald Trump se targue d'avoir noué une relation très spéciale avec le dirigeant nord-coréen, un homme intelligent, un négociateur talentueux, a-t-il souligné. Le président américain se dit confiant, il croit en son instinct, mais il l'a précisé, les sanctions contre la Corée du Nord resteront en vigueur tant que la menace des armes atomiques ne sera pas levée.
Yann, l'annonce de la suspension des manœuvres militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud, précisément, a jeté le trouble à Séoul, d'où nous a appelé Frédéric Ojardias.
C'est l'annonce la plus surprenante de Donald Trump à Singapour, la suspension des exercices militaires conjoints. Ces manœuvres ont lieu deux fois par an et elles ont toujours été présentées comme indispensables pour assurer la défense de la Corée du Sud. L'annonce de leur suspension semble avoir pris le gouvernement sud-coréen par surprise, mais dans les rues de Séoul, on réagit de façon plutôt positive.
C'est une excellente nouvelle. Nous discutons de la signature d'un traité de paix. Notre sécurité nationale n'est donc plus menacée. Même si l'ambiance est devenue pacifique entre les deux Corées, il faut maintenir notre posture de défense. Il faut donc maintenir les exercices militaires. Je m'inquiète pour notre sécurité nationale.
Pour qu'un pays fonctionne bien, il doit être indépendant. La Corée du Sud doit être indépendante le plus tôt possible, que ce soit sur le plan économique ou militaire.
Ces manœuvres provoquent à chaque fois la fureur du régime de Pyongyang, qui les considère comme des préparatifs à une invasion. Leur suspension est donc une concession majeure destinée à rassurer la Corée du Nord.
Alors ça, c'est le sujet de la semaine, en tout cas même de l'année, peut-être. Yann Mince, deux auditeurs nous ont écrit en particulier sur cet événement. Hippolyte se demande ce qu'il y a de réel, est-ce qu'il y a de réelles chances pour que l'accord entre les États-Unis et la Corée du Nord aille à son terme. Il nous a écrit du Bénin. Et Tierno Ibrahima se demande si le président nord-coréen peut faire confiance à Donald Trump. Et pas l'inverse.
Effectivement, Kim Jong-un aura peut-être un peu de raison de se méfier des engagements engagements de Donald Trump, si on pense au G7 dont on parlait juste avant. Cela dit, je pense que le sommet est une réussite pour le Nord-Coréen, pour Kim Jong-un, parce que si on pense qu'il y a quelques mois c'était un paria sur la scène internationale, que Trump le menaçait de toutes les foudres des armes de destruction américaines, et que
Rocketman,
là il est
traité, Rocketman,
oui, puis il s'en moquait ou pratiquement. Aujourd'hui, il est traité pratiquement à égalité, alors que la Corée du Nord est quand même un petit pays, avec le président de la plus grande puissance du monde, qui plus est d'une démocratie. On peut critiquer le système institutionnel américain, mais enfin c'est quand même une démocratie. Donald Trump a été élu, certains comme moi peuvent le regretter, mais c'est un fait. Kim Jong-un, pas du tout. Et le voilà traité tout d'un coup presque à parité, comme un membre respectable de la communauté des chefs d'État. Pour moi, c'est une grande réussite pour lui. Il s'est engagé, comme l'a dit Anne Corpée, je crois, à rien, à peu près, des déclarations extrêmement vagues. Et on sait que les Nord-Coréens ont une capacité à ne pas mettre en œuvre des accords, même quand ils les ont signés. Alors, ils ont fait des gestes avant. Ils ont détruit, semble-t-il, un site d'essai nucléaire. C'est plus compliqué, si je crois comprendre, sur l'histoire des sites de tir de missiles, où il n'y a pas eu de destruction, il y a juste eu un engagement pour l'instant. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a le communiqué et les engagements sont dits de façon verbale par les chefs d'État ensuite. Notamment sur la fin des exercices militaires avec la Corée du Sud pour les États-Unis, qui inquiète tant les Sud-Coréens. Je pense qu'un des pays aussi qui s'inquiète beaucoup, c'est le Japon, parce qu'effectivement,
qui est isolé,
qui est une des premières victimes potentielles des tirs de missiles. Alors pas des tirs de missiles intercontinentaux, mais des tirs de missiles de moyenne portée dont dispose la Corée du Nord, et qui est a priori, en principe, en vertu des accords conclus entre les deux pays, qui est protégé par les États-Unis. Si la Corée du Sud est moins protégée, le Japon peut se demander si demain il sera moins protégé. Et la conclusion, on en est loin, je crois, mais qui viendra un jour, c'est est-ce que le Japon doit s'équiper de l'arme nucléaire lui-même? Il en a les moyens, il a tout à fait le combustible, il a le savoir-faire, bien évidemment. Pour l'instant, il n'en a pas la volonté. Il faut se souvenir que le Japon a été victime de l'arme nucléaire à Hiroshima en 1945. Ils ont une grande résistance, mais peut-être qu'un jour, ça finira par venir chez les Japonais.
Ce qui est frappant, Yann, c'est la différence de traitement de la part de Donald Trump, selon que l'on est nord-coréen, c'est-à-dire détenteur de la bombe atomique, ou iranien, en passe de l'obtenir.
Effectivement, la différence, c'est que Donald Trump, c'est un homme de rapport de force. Il sait bien qu'il a en face de lui quelqu'un qui a un moyen de contrainte sur lui. Les Iraniens, pour l'instant, n'ont pas de moyen de contrainte sur les États-Unis. Les missiles iraniens ne peuvent pas atteindre les États-Unis. Et pour l'instant, les Iraniens n'ont fait aucun essai nucléaire, n'ont pas d'armes nucléaires. C'est pas du tout le cas de la Corée du Nord. On n'est pas absolument sûr que les Nord-Coréens peuvent fabriquer un engin capable d'être porté sur un missile, une charge suffisamment petite. Mais en tout cas, ils savent faire exploser un engin et ils ont des missiles qui, semble-t-il, peuvent aller jusqu'aux États-Unis. C'est une menace évidente, palpable. Dans une certaine mesure, je dirais que Kim Jong-un a réussi à se faire respecter de Donald Trump parce qu'il a montré qu'il avait une capacité de nuisance. Et ça, Trump comprend très bien. Les Iraniens ont une capacité virtuelle de nuisance. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration.
Sept jours dans le monde.
Partons maintenant pour l'Amérique centrale. Yann, une fois n'est pas coutume dans cette émission, je le regrette d'ailleurs, au Nicaragua où les manifestations contre le président Daniel Ortega se poursuivent dans le sang, au moins quelques 150 morts en 2 mois. À Mexico, correspondance régionale de Patrick John Buff.
Il ne se passe pas un jour sans que la violence provoque de nouvelles victimes, que ce soit dans la capitale, Managua, ou dans l'intérieur du pays, où il est devenu difficile de circuler en raison des barrages routiers installés par les opposants au président Ortega. Et ce sont d'ailleurs ces barrages qui, depuis quelques jours, sont devenus la cible privilégiée de la police anti-émeute et des groupes paramilitaires qui tentent de les éliminer. Leurs attaques ont aussi pour but de démonter les barricades que les habitants ont installées dans leur quartier, non seulement pour protester, mais aussi pour se défendre de bandes armées qui séquestrent et tuent en toute impunité. Face à cette escalade de la violence liée à une répression aveugle, nombreux sont les Nicaraguayens qui évitent désormais de sortir dans les rues. Car la crise dans laquelle est plongé le pays risque de durer. Et cela, malgré les efforts des évêques catholiques qui, jeudi passé, ont présenté à Daniel Ortega une proposition de démocratisation du pays qui permettrait de renouer le dialogue. Le chef de l'État leur avait demandé un délai de réflexion de 2 jours, mais il n'a toujours pas répondu, laissant laissant le Nicaragua sombrer chaque jour davantage dans le chaos.
Allons maintenant en Europe, en Italie, pour parler de la décision prise par le nouveau gouvernement de ne pas accueillir l'Aquarius, ce bateau affrété par l'organisation humanitaire française SOS Méditerranée, qui a sauvé plus de 600 réfugiés en mer. Une décision qui a entre autres conséquences tendu les relations entre Rome et Paris et divisé l'Europe. À Strasbourg, au Parlement européen, Johanna Hostein, mercredi.
Ils sont nombreux ici à critiquer les propos du président français, Emmanuel Macron, qui a dénoncé, je cite, « la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien » en raison de son refus d'accueillir le navire Aquarius dans un port en Italie. Nadine Morano, eurodéputée française du Parti Les Républicains.
Moi, je soutiens l'initiative de Matteo Salvini de dire stop, de contribuer à casser cette spirale d'immigration illégale qui arrive par la mer. C'est courageux. Mais en fait, ce qui n'est pas correct, c'est la réaction de la France qui se permet de donner des leçons de morale à l'Italie.
Pour l'ancienne ministre italienne de l'immigration, actuellement eurodéputée, le président français aurait mieux fait de s'abstenir de tout commentaire et de rappeler quelques chiffres. L'an dernier, 70% des migrants arrivés en Europe ont débarqué sur les côtes italiennes. Cécile Kienge.
Si Monsieur le Président Macron voulait démontrer qu'il est différent, il allait ouvrir ses frontières, il allait se mettre au niveau du Conseil pour dire qu'on doit essayer de partager les responsabilités entre les États membres, mais au contraire, il a préféré fermer les frontières en laissant toute la responsabilité sur l'Italie.
Tous ici appellent le président français à avancer enfin sur la révision du règlement de Dublin qui donne aux pays en première ligne la charge d'instruire la demande d'asile d'un migrant, sujet qui sera à l'ordre du jour du sommet européen fin juin.
Et notons aussi que 900 migrants qui se trouvaient à bord d'un navire des gardes-côtes italiens sont arrivés mercredi en Italie. Deux autres questions pour vous, Yann. Oumar Sidibé se demande et voudrait savoir pourquoi l'Italie a refusé ces 629 migrants, ce bateau, et pourquoi, au contraire, le gouvernement espagnol a accepté.
Ben, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, l'Italie avait jusqu'ici, jusqu'à la formation du récent gouvernement, cette alliance étrange entre l'extrême droite, c'est le mouvement des 5 étoiles, un mouvement populiste plutôt venu de la gauche en principe, on pensait, bon, mais qui s'est allié avec l'extrême droite, c'est un peu curieux. Ouais. Jusque-là, c'était un gouvernement, on va dire, de centre-droit, centre-gauche du centre, qui avait une double politique. C'est-à-dire qu'en fait, ils accueillaient les migrants qui étaient récupérés par les navires italiens ou les ONG au large de l'Italie, mais en même temps, ils essayaient de soutenir les gardes-côtes libyens pour que justement ces bateaux qui quittent le rivage libyen n'arrivent pas jusqu'en mer où les navires italiens sont obligés de les récupérer. Donc il y avait effectivement une double politique là depuis que le gouvernement est arrivé et le ministre de l'Intérieur est d'extrême droite, Matteo Salvini, lui il a décidé que non, on allait tout arrêter, on prendrait plus les migrants, même quand ils se trouvent au plus près des côtes italiennes. Donc effectivement, il a dit non, stop. Et donc on avait ce bateau. Alors ce qu'a dit Matteo Salvini, c'est pas nous, c'est les Maltais, parce qu'en fait le bateau est plus près de Malte que de chez nous. Les Maltais ont dit on veut pas. Et l'Espagne a dit oui. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé aussi un changement politique en Espagne, c'est que jusqu'il y a quelques semaines, c'était la droite, le Partido Popular, Mariano Rajoy, qui était en tête, qui gouvernait l'Espagne. Mmh. Il a été l'objet d'une motion de censure. Il a été renversé. Maintenant, c'est la gauche, le Parti Socialiste en tout cas, de Pedro Sánchez, qui gouverne l'Espagne et qui a décidé de faire ce geste. Il faut noter quand même que depuis le début de l'année, c'est important, il y a une recrudescence aussi par ailleurs des arrivées de migrants en Espagne par le Maroc. Jusque-là, cette voie qui avait été très importante il y a quelques années en arrière, était plutôt en sommeil, je dirais. Mais comme justement les Italiens ont fait des efforts pour soutenir les gardes-côtes libyens et empêcher les bateaux de partir de Libye, ou en tout cas limiter le flux, on voit maintenant d'autres voies qui réapparaissent, et notamment la voie espagnole.
Alors il faut noter que cette affaire a créé des tensions entre Paris et Rome. Ça n'a pas empêché la rencontre hier à Paris de Giuseppe Conte, du président Macron. On en parle dans nos journaux. Il y a une question d'un auditeur, une question ironique d'un auditeur, Jonas, qui se demande, j'aimerais savoir pourquoi les Italiens organisent des élections presque chaque année.
Alors ça dépend. Si on parle d'élections générales, d'élections parlementaires, il n'y en a quand même pas tous les ans. Alors ensuite, si on parle d'élections locales, etc., là, il y a effectivement, mais je dirais qu'en France aussi, on a des municipales, des européennes, des élections pour les conseils départementaux, etc. Non, ce qui est frappant surtout, c'est que on avait pendant très longtemps un paysage partisan italien très éclaté, avec beaucoup de partis. Pour pouvoir faire une coalition gouvernementale en Italie, il fallait réunir plusieurs partis. Ce système qui a montré qu'il était de plus en plus impopulaire, de plus en plus discrédité, ça a été bouleversé et on a vu donc grandir des partis comme le parti 5 étoiles, qui sont des partis qui relativement récents, qui ne viennent pas d'une longue tradition en Italie et qui ont tout d'un coup pris de l'ampleur et de la popularité profitant du discrédit des autres, des partis classiques. Donc on a de nouveaux partis, et c'est cet attelage vraiment pour moi très étrange entre l'extrême droite et ce parti populiste 5 étoiles dont je pensais que l'électorat était plutôt de gauche. Sauf que sur la question de la migration, le discours des 5 étoiles a toujours été extrêmement ambigu. Et on voit aujourd'hui qu'en fait les 5 étoiles laissent faire l'extrême droite en matière de migration. Cela dit, je ne sais pas ce que concrètement Matteo Salvini va pouvoir faire pour empêcher les migrants d'arriver.
Alors il nous faut parler de l'Arabie Saoudite. Le début de la Coupe du Monde, c'était jeudi avec un premier match. Arabie Saoudite-Russie, victoire de la Russie 5-0. Et il faut parler de l'Arabie Saoudite, mais cette fois très loin des terrains de foot. À propos du Yémen, parce qu'il se passe des choses là en ce moment importantes au Yémen.
Autant visiblement les footballeurs saoudiens n'ont pas brillé dans les tirs, autant malheureusement les armées saoudiennes et émiraties sont aujourd'hui en train de frapper très violemment la ville de Deida. La ville de Deida qui est un port qui est au nord du Yémen, dans la zone plutôt contrôlée par les Houthis, donc les adversaires des émiraties et des saoudiens. Et c'est une ville par laquelle arrive l'essentiel de l'aide alimentaire qui permet aux yéménites de survivre dans toute la partie nord du pays, qui est la partie la plus peuplée. Si les Saoudiens et les Émiratis s'emparent de ce port de Hodeïda, ils risquent de pouvoir bloquer, ce qu'ils ont déjà essayé de faire dans le passé sans contrôler le port, ils risquent de bloquer l'aide alimentaire, en fait d'affamer le nord du Yémen pour obliger les Houthis à capituler et à se rendre et que la population fasse pression pour les Houthis. On peut se préparer, c'est pas moi qui le dis, sur les Nations Unies, à une crise humanitaire de très grande ampleur. Et je suis frappé par le fait que les puissances occidentales, je pense aux États-Unis, je pense à la France, un peu moins la Grande-Bretagne, qui est un peu plus présente, ne disent rien ou pas grand-chose et surtout n'ont pas peut-être la volonté, mais peut-être même pas la capacité d'arrêter le bras saoudien et émirati, sauf à suspendre les livraisons de pièces détachées pour les armements, par exemple, ou des choses comme ça.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Oumar Bobo Modibo nous a envoyé un courriel à cette adresse, semaine.actu@rfi.fr. L'année prochaine, il sera au Japon, nous dit-il, pour entamer des études de doctorat grâce à une bourse du gouvernement japonais. Fidèle à RFI et à l'émission en particulier, il a déjà repéré un café qui s'appelle La Vie en France, où il nous écoutera sur Internet. Merci et félicitations. Vous pouvez aussi nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour à trois auditeurs de Dakar, Medoun, Al, Amin Diem et Augustin. Bonjour à Messan, à Lomé et à Amadou au Niger. Il dit détester l'hypocrisie, l'injustice, l'arrogance, le zèle et la corruption.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique maintenant et revenons d'abord sur la libération mardi par la Cour pénale internationale de Jean-Pierre Bemba, le chef du MLC, le mouvement de libération du Congo, acquitté il y a une semaine des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On en a parlé avec Chantal Leroux samedi dernier à La Haye. Sonia Rollet.
À l'audience, pas de Jean-Pierre Bemba, mais une avocate de la défense, maître Melinda Taylor, qui aligne les arguments.
Considérant que les co-accusés de M. Bemba dans cette affaire sont tous libres et ce depuis octobre 2014, considérant que M. Bemba a purgé 9/10 de la peine maximale possible, nous estimons respectueusement qu'il n'y a aucune loi ou argument objectif qui justifie de séparer M. Bemba de sa famille un jour de plus. From his family
for one day further. Deux représentants du bureau du procureur prennent la parole tour à tour et insistent pour que Jean-Pierre Bemba reste en détention jusqu'à la détermination de la peine dans cette deuxième affaire de subornation de témoins. C'est Merichel Regué qui enfonce le clou.
Monsieur Bemba a été reconnu coupable dans cette affaire. Si la Cour suit l'accusation et le condamne à 5 ans de prison, Monsieur Bemba devra rester en détention.
Les juges se sont rangés à l'avis de la défense. À 16h58 précisément, tweet l'une des avocates de Jean-Pierre Bemba, la décision tombe au greffe et se répand dans les couloirs de la CPI. Bemba libéré quand toutes les formalités seront remplies, répond le porte-parole de la Cour.
Alors un rappel bienvenu, que reproche-t-on maintenant à Jean-Pierre Bemba? La réponse de Léa Lisa Estaroff.
Pas de doute là-dessus, Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable d'entrave à l'administration de la justice. Très concrètement, d'avoir entre autres monnayé et donc faussé les déclarations de 14 témoins dans cet autre procès où il était accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un verdict confirmé en appel le 8 mars. Si sur sa culpabilité, il n'y a donc plus de débat, c'est sur la sentence dont Jean-Pierre Bemba va écoper que les juges doivent encore se décider. Condamné à 1 an de prison en première instance, en appel, les juges ont demandé à ce que cette peine soit révisée. C'est tout l'objet de la prochaine audience, le 4 juillet prochain. Combien d'années de prison lui et ses 4 co-accusés vont devoir purger, sachant que même si les juges optent pour la peine maximale de 5 ans, Jean-Pierre Bemba n'aura plus que 4 mois et quelques à passer derrière les barreaux, car son inculpation dans cette affaire date du 20 novembre 2013.
Olivier nous pose une question, vous pose une question. Yann, ne peut-on comprendre la décision de la CPI qui vient d'acquitter Jean-Pierre Bemba alors qu'il a été condamné pour crime de guerre?
Bon, je ne suis pas un spécialiste du droit international, loin de là. J'ai cru comprendre qu'il y avait deux choses. Il y a d'une part le fait que, si bien compris, le bureau du procureur a rajouté en cours de procès des éléments et des témoignages qui n'étaient pas prévus au départ et dont, visiblement, les juges en appel ont considéré que ça avait, faussé la procédure. La deuxième chose, c'est la question du degré de responsabilité de Jean-Pierre Bemba, qui n'était pas sur place en Centrafrique, et son degré de responsabilité par rapport à des troupes auprès desquelles il n'était pas physiquement présent. La question, c'est de savoir si, en gros, c'était lui, si j'ai bien compris, qui contrôlait vraiment ses troupes, ou s'il avait délégué le commandement à Ange-Félix Patassé, qui était son allié de l'époque, à qui il avait prêté ses violeurs, tueurs et pilleurs qui étaient les hommes du MLC, et savoir si donc il était plus responsable de ce que les agissements de ces hommes. C'est la responsabilité, ça m'a rappelé des vieux cours de droit de mes jeunes années, du commettant, du fait du préposé, c'est en gros du patron par rapport à son employé. Est-ce que Bemba était encore le patron de ses troupes, même s'il était à distance? Visiblement, les juges en appel ont décidé que non. Je note simplement qu'il y avait 5 juges en appel, il y en a 3 qui étaient pour cette décision, mais 2 qui étaient contre. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui est d'une évidence totale, y compris pour des juristes spécialistes de droit international.
Alors cette décision de la semaine dernière, de cette semaine, d'ailleurs, repose la question chez certains de la pertinence et de la compétence de la Cour pénale internationale.
Il y a deux choses, je pense. Il y a la question de l'existence et du fait qu'il faut qu'une telle juridiction existe. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle existe plutôt qu'elle n'existe pas. L'alternative, on l'a vu avant, avant il n'y avait rien du tout. Et puis il y a eu ces tribunaux pénaux spéciaux pour la Yougoslavie, pour le Rwanda, qui ont inventé et qui ont plus ou moins bien inventé et plus ou moins bien fonctionné. On a ensuite créé la CPI. Je pense que la question, c'est plutôt, visiblement, les failles sont dans le fonctionnement du bureau du procureur. Est-ce que la préparation des enquêtes est bien faite? Est-ce qu'elle est suffisamment rigoureuse? Et puis, par ailleurs, il y a aussi un autre phénomène. Est-ce qu'on n'attend pas trop de la CPI? Est-ce qu'on n'attend pas qu'elle répare tous les maux? En fait, la CPI juge des individus. Elle ne juge pas un conflit. Elle ne juge pas toute une classe politique. Elle ne juge pas l'ensemble des acteurs.
C'est là qu'il y a effectivement des confusions et des quiproquos. Hein. Ce sont des individus, non pas des conflits.
Une cour pénale. Elle n'est pas en train de juger une situation où la responsabilité, l'organisation du conflit, les origines, les sources, évidemment, tout ça est présent dans le procès en background. Mais ce qu'on juge, c'est un individu précis. Et là, on a jugé précisément Bemba. La question, c'est pourquoi est-ce que le bureau du procureur a décidé de ne s'attaquer qu'à Bemba et pas à 4 ou 5 commandants de son mouvement, ce qui aurait été peut-être plus pertinent. Maintenant, la question, il y a une cour spéciale, alors du coup, en Centrafrique, qui donc, si je puis dire, sous la CPI. On va voir ce qu'elle se met juste en place là, tout juste en place. On va voir si effectivement elle reprend le flambeau pour effectivement que les victimes de ces exactions horribles, d'une façon ou d'une autre, obtiennent réparation, que ce soit
même. Oui, parce que ça, c'est la question. C'est la question de l'indemnisation des victimes.
Bon, je pense qu'il y a d'abord le fait qu'on dise publiquement ce qui s'est passé et qui l'a fait. Ensuite, la réparation, c'est important, bien entendu, pour les victimes. Mais pour celles qui sont mortes, si je puis dire, malheureusement, c'est trop tard. En revanche, c'est très important, d'une part, qu'on dise la justice, et que d'autre part, ceux qui seraient tentés de commettre d'autres actes, et on sait qu'en Centrafrique, malheureusement notamment, mais au Congo aussi et dans bien d'autres endroits, il y a des gens qui sont susceptibles de commettre ce genre de choses, qu'ils sachent qu'ils pourront éventuellement être punis. Sinon, c'est l'impunité totale.
Alors partons maintenant pour Djibouti, Yann Mince, pour parler du pas important vers la pacification de la Corne de l'Afrique, ou du moins on l'espère, après les gestes de détente de l'Éthiopie vis-à-vis de l'Érythrée. À Nairobi, correspondance régionale de Sébastien Nemeth.
C'est avec une satisfaction mêlée de méfiance que Djibouti a accueilli la proposition éthiopienne. Mahmoud Ali Youssouf espère que l'Érythrée acceptera la main tendue d'Addis Abeba. Quant au conflit entre Asmara et Djibouti, le chef de la diplomatie djiboutienne estime que la balle est dans le camp érythréen. Les deux pays sont en conflit pour la région frontalière de Ras Doumeira. Médiateur de la crise, le Qatar avait déployé des soldats sur une zone tampon, mais Doha s'est retiré il y a un an. L'armée érythréenne en avait profité pour prendre le contrôle du secteur. Nous avons toujours prôné le dialogue. Nous ne refuserons pas un nouveau médiateur, mais l'Érythrée doit être de bonne foi, explique Mahmoud Ali Youssouf. Le chemin semble donc long avant un rapprochement et Djibouti se dit prêt à défendre ses intérêts. L'Érythrée n'a jamais respecté les résolutions de l'ONU et organise des opérations de déstabilisation, indique Daoud Oumed, porte-parole Europe de la majorité au pouvoir. Djibouti accuse régulièrement son voisin de mener des attaques. Dernier exemple, le 5 juin dernier, lorsque des engins de chantier ont été brûlés près de Tadjoura. C'est sûr que ça ne favorise pas une négociation et nous ne céderons pas aux intimidations, a réagi Daoud Oumed. Il y a 2 ans, Asmara avait pourtant relâché 4 soldats djiboutiens prisonniers, mais Djibouti exige la libération inconditionnelle de 13 autres militaires manquant toujours à l'appel.
Dernière étape africaine pour cette semaine, Yann Mince, la Mauritanie, avec la douloureuse question de l'esclavage dont nous avons parlé dimanche dernier dans le magazine Idée avec l'historienne de l'Afrique, Catherine Kokri-Vidrovitch. Nous l'avons invitée dimanche dernier et vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission sur le site de la radio RFI.fr. Esclavage donc qui ne concerne pas seulement les Arabes mauritaniens, mais les négro-africains des villages soninkés de Guidimaka, spoliés de leurs terres par leurs anciens maîtres. Ils ont manifesté mercredi à Nouakchott, correspondance de Salem Mejbour.
Les anciens esclaves du village de Dafour, à 60 km de Sidibabi, dans l'est mauritanien, ne peuvent plus mettre en valeur leurs terres ancestrales de culture. Ils sont empêchés par les anciens maîtres qui voient d'un mauvais œil leur velléité d'émancipation. Baliou Koulibaly, porte-parole, il dénonce l'occupation illégale des terres.
Nous sommes là aujourd'hui pour manifester contre l'occupation illégale des terres de braves citoyens du village de Dafour par les lobbies esclavagistes. Et ce phénomène, effectivement, a éclaté à Dafour, mais c'est un phénomène général qui existe pratiquement dans tous les villages soninkés, aussi bien au niveau du Guidimara qu'à Gataga, à Kayedi et dans tous les villages.
De nombreux villages ont envoyé des délégués pour participer à ces sit-ins devant la présidence de la République. C'est le cas de Yassa Ali.
Les féodaux qui se sont rassemblés pour dire que voilà, depuis que les villages ont existé, vos grands-parents, vos pères, vos mamans ont été toujours des esclaves et vous, si vous refusez d'être des esclaves, les terres qui sont là, ils sont à nous.
Un collectif d'associations de lutte contre l'esclavage et ses séquelles s'est constitué pour aider les paysans à récupérer leurs terres. La terre appartient à celui qui la met en valeur et c'est une loi mauritanienne de 1983 qui l'est dit.
Yann, faut-il croire à ces espoirs de paix dans la corne de l'Afrique, région stratégique s'il en est ?
Il se passe indubitablement des choses en Éthiopie depuis l'accession au pouvoir d'un nouveau Premier ministre, y compris sur le plan de la politique intérieure. D'abord, c'est un homme qui n'est pas issu ni de l'ethnie Tigré, ni d'ethnie Amhara, c'est un Oromo, donc une ethnie, enfin en partie, puisque je crois que son père est Oromo et sa mère doit être Amhara, je crois. Donc c'est un homme qui visiblement est en train de changer des choses, à poil sur le plan, de, bon, on n'est pas encore à la démocratie, hein, mais c'est en libération de prisonniers. Et puis cette affaire de rapprochement avec l'Érythrée, il faut rappeler d'abord que sur le contentieux territorial autour de Batmé, au nord de l'Éthiopie, donc au sud de l'Érythrée, une cour internationale avait donné raison à l'Érythrée, c'était l'Éthiopie qui refusait l'application du jugement. Donc là, si effectivement elle admet, c'est-à-dire qu'elle reconnaît le droit, et c'est plutôt très bien. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète dans la Corne de l'Afrique, c'est l'influence des acteurs extérieurs. Les Émirats arabes unis, notamment, sont extrêmement présents aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique, aussi bien du côté de Djibouti que du Somaliland, qu'en Érythrée, etc. Le Qatar, on en a parlé à propos de Djibouti et l'Érythrée, est très présent.
L'Arabie Saoudite.
Et c'est un peu retiré. L'Arabie Saoudite. Et la Turquie aussi. La Turquie qui est en rivalité régionale avec les Émiratis. Donc là, il y a des acteurs extérieurs qui jouent, qui peuvent utiliser des acteurs les uns contre les autres. Ça s'est vu en Somalie récemment. Et donc, il y a des tensions potentielles qui sont extérieures à la Corne. Il ne faudrait pas que, alors que les pays ont éventuellement, peut-être en tout cas, l'envie de rapprochement, que des acteurs extérieurs les tirent vers d'autres penchants.
Et toujours la question de l'esclavage en Mauritanie.
Oui, c'est une question ancienne et qui, en l'occurrence, dans le cas présent, est mêlée d'une autre question tout aussi compliquée, même si elle est moins douloureuse, qui est la question de la propriété de la terre. Comment est-ce qu'on prouve qu'on est propriétaire d'une terre en Afrique ? Est-ce que c'est parce que vous l'avez toujours eue ou est-ce que vous la cultivez ? Et on sait que dans beaucoup de pays d'Afrique, il n'y a pas de titre de propriété écrit, que c'est l'héritage de la coutume. On sait aussi que souvent les terres étaient en principe propriété collective, mais il y a quand même quelqu'un qui les administrait, quelqu'un qui disait c'est toi qui as tel champ, c'est toi qui as tel champ, etc. Là, en l'occurrence, simplement, les esclaves esclavagistes disent ces terres nous appartiennent toute éternité, ceux qui les travaillaient parce qu'elles étaient à nous sous nos ordres, ils veulent plus travailler, qu'ils s'en aillent. Ce qui veut dire qu'on prive effectivement des gens de la terre qui les fait vivre, et ça c'est un problème très compliqué en absence d'un droit écrit. Je ne suis pas en train de dire que le droit écrit est le meilleur du monde, mais en l'occurrence, la charge de la preuve de la propriété de la terre est très compliquée.
Une semaine d'actualité.
Après l'actualité internationale, après l'actualité africaine, Yann, nous allons nous arrêter quelques minutes en France pour conclure cette émission avec mercredi à Montpellier des annonces présidentielles en matière sociale et de santé, alors qu'une vidéo montrant Emmanuel Macron lors d'une réunion à l'Élysée parlant de pognon, langage familier, faisait des vagues. Valérie Gasse.
Emmanuel Macron l'a dit dans une vidéo diffusée par sa conseillère en communication quelques heures avant son discours au congrès de la Mutualité à Montpellier. Je cite « On met un pognon dingue dans les minima sociaux et les gens sont quand même pauvres ». Dans un langage moins familier, il a dressé le même bilan devant les mutualistes et en a tiré une conclusion.
Ce qu'il nous faut faire, c'est réinvestir dans la personne, c'est responsabiliser plus et non pas considérer que la seule réponse, c'est l'argent de la collectivité. Il nous faut sortir d'une logique de guichet pour une logique d'accompagnement.
Pour Emmanuel Macron, la solution n'est donc pas de dépenser plus d'argent et cela lui permet de justifier sa politique.
Je n'ai pas le sentiment que lorsqu'on redresse l'économie, lorsqu'on permet à des gens d'y produire davantage, on ne soit contre le modèle social. Mais c'est produire pour pouvoir redistribuer.
Libéré et en même temps protégé, le chef de l'État a réexpliqué les fondamentaux de son programme de campagne à un moment où il est fortement critiqué au sein de sa majorité pour avoir donné la part belle aux mesures de droite. Emmanuel Macron a confirmé la prise en charge à 100% des prothèses dentaires, auditives, des lunettes. Une promesse de campagne et une mesure qu'il veut emblématique. S'il n'opère pas de véritable virage social, Emmanuel Macron rééquilibre son discours et sa pédagogie.
Les propos familiers d'Emmanuel Macron qui ont été diffusés sur les réseaux dits sociaux ont provoqué donc des réactions dans le monde politique à l'Assemblée nationale, notamment Anthony Latier.
Les jours se suivent et se ressemblent à l'Assemblée nationale. Déjà en première ligne mardi pour dénoncer le silence d'Emmanuel Macron sur le dossier de l'Aquarius, la députée de la majorité Sonia Crimi regrette cette fois ses propos sur les minima sociaux.
Il ne faut pas présenter les choses comme ça. Je suis très très mal à l'aise avec cette phrase. Il faut faire attention à ce qu'on dit.
Un président ne devrait pas dire ça, appuie le député Les Républicains Daniel Fasquel.
Un président de la République ne peut pas continuer à insulter son peuple. Je me mets à la place de celui qui a une allocation adulte handicapé, qui vit de minima sociaux. Quand il entend que le président de la République dit qu'on dépense trop de pognon pour lui, vous imaginez comment il peut le recevoir ?
L'insoumis Adrien Quatennens y voit, lui, une manœuvre politique pour draguer un certain électorat.
Il utilise le langage d'une droite décomplexée dont il est devenu le chef, sans le dire. Et c'est à eux qu'il donne un signal, un appel d'air en réalité.
C'est finalement François Bayrou qui vient à la rescousse du chef de l'État, le patron du Modem, de passage dans les couloirs de l'Assemblée.
À force de ne jamais dire les choses, on est dans la situation où la France se trouve, c'est-à-dire complètement bloquée et incapable de proposer un nouveau projet de société. Moi, je ne vois dans ces propos aucune stigmatisation.
Des propos qui ont en tout cas occulté le discours d'Emmanuel Macron en lui-même, censé redonner, selon l'Élysée, de la cohérence à l'approche sociale du président.
Alors Yann, nous allons parler quelques minutes d'Emmanuel Macron. Avant de parler de ses propos sur le pognon et sur la pauvreté, sur les pauvres, revenons sur ces tensions avec l'Italie. C'est vrai que le silence du gouvernement et de la présidence au début de la semaine à propos de l'Aquarius était, comme on dit aujourd'hui, assourdissant.
Oui, c'était une forme de lâche soulagement, ça ne nous concerne pas, ça se passe loin des côtes françaises surtout, donc on n'a pas à se prononcer. On n'a pas entendu ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe, ni Gérard Collomb proposer le port de Marseille, par exemple, pour accueillir le bateau. Je ne sais pas si c'était techniquement possible, mais à mon avis, ça ne devait pas être plus compliqué que d'aller jusqu'à Valence en Espagne. On n'a pas entendu pourquoi. Parce que la politique de la France, c'est de s'accrocher aux accords de Dublin, c'est-à-dire que les pays qui sont sur le bord de l'Union européenne et qui voient arriver la plupart des migrants, qu'ils se débrouillent avec. On fait un minimum de solidarité, en tout cas vraiment le strict minimum. On l'a vu en 2015 quand il y a eu cet afflux très important de Syriens, etc., où les Européens sont réunis et ont dit on va prendre un peu de migrants qui sont en excès, si je puis dire, entre guillemets, en Grèce et en Italie. Quand on regarde le bilan plusieurs années après, on se rend compte que on a pris très peu, on n'a pas rempli ces engagements, y compris la France. Les Hongrois, les Polonais n'ont rien dit, n'ont rien fait du tout, mais la France a fait très peu. La France part du principe que c'est aux Italiens, aux Grecs de se débrouiller, d'une part, et que la France fait d'autres choses importantes pour l'Union Européenne. Je me souviens d'une déclaration de Valls qui disait, en gros, nous on fait la guerre contre les djihadistes au Mali, donc on fait notre part du boulot pour l'Union Européenne, pour les réfugiés, pour les migrants, voyez d'autres. Et donc c'est, débrouillez-vous les Italiens et les Grecs avec les migrants, vous donnera un peu d'argent. Et puis Emmanuel Macron est dans la même ligne que le gouvernement italien actuel et que le précédent. On renforce les gardes-côtes libyens pour que les gardes-côtes libyens ramènent les migrants sur la côte en Libye et que ça dissuade les Africains de venir jusqu'en Libye pour venir essayer de venir jusqu'en Europe. C'est toujours cette idée que si la porte de l'Europe est fermée, les Africains, que ce soit de l'Est, d'Afrique centrale ou de l'Ouest, renonceront à essayer de venir en Europe. Ça ne marche pas, c'est clair, ça ne marche pas.
Et il y a quand même une mise en cause, j'entendais ces derniers jours, des remises en cause discrètes, et des critiques discrètes, mais des critiques quand même, de l'action humanitaire des associations qui aident ces réfugiés.
C'est un refrain qu'on entend en Italie surtout.
Comme si on pouvait leur reprocher d'aller secourir des réfugiés en mer Méditerranée.
Le raisonnement qui est tenu, qui a été notamment tenu par le gouvernement italien précédent, ancien celui de Matteo Renzi, c'est de dire les passeurs envoient d'autant plus de bateaux dans de très mauvaises conditions qu'ils savent que de toute façon les migrants vont être récupérés par les ONG. Donc ce serait, en fait, les ONG ne seraient pas coupables par le fait qu'elles ont une complicité explicite avec les passeurs, mais le simple fait qu'elles secourent les migrants inciterait les passeurs à balancer des embarcations comme s'ils les passeurs se souciaient beaucoup de la vie ou pas. On le sait, on le voit. Moi, je suis allé en Libye et j'en ai entendu parler là-bas. Les bateaux sur lesquels les migrants partent et qui leur sont donnés par les passeurs sont des bateaux qui n'ont pas les moyens techniquement d'aller jusqu'en Italie. Donc on les envoie clairement à la mort. Et les passeurs se fichent de savoir si les bateaux des ONG vont les récupérer ou pas. D'ailleurs, il y a plusieurs centaines de morts déjà depuis le début de l'année au large des côtes libyennes et ça continue. Et je crains que ça ne continue.
Alors, autre chose à propos d'Emmanuel Macron, ses propos là, sur le pognon, sur cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, une stratégie de communication fort habile.
C'est une stratégie de communication, je trouve, un peu cynique, qui consiste à dire, pour le bon peuple, on peut employer des mots faciles un peu vulgaires, et ensuite, quand on va à l'étude mutualité française pour des gens qui ont fait des études, etc., qui sont censés être d'un niveau culturel supérieur à la moyenne des Français, on emploie un langage plus châtié. Je trouve ça assez méprisant, en fait, pour l'électorat moyen.
Il y a
moyen.
Un peu de Sarkozy, si je veux dire.
Il y a un peu de Sarkozy, il y a un peu de Giscard d'Estaing, et surtout en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a surtout des appels du pied à l'électorat de Laurent Wauquiez. On voit bien que Laurent Wauquiez est en difficulté dans son propre électorat. Il n'arrive pas vraiment à convaincre une partie de l'électorat de la droite classique, disons, classique tendance musclée. Et j'ai l'impression que Emmanuel Macron se dit que là, il y a une part de marché à prendre et que donc il va tenir un langage. Alors, tout ça est habillé intellectuellement. Les aides sociales, ça ne marche pas. Le problème, c'est quand on regarde les chiffres, avant aides sociales, la France est un pays très, très inégalitaire. Après les aides sociales, on est un peu moins inégalitaire. C'est pas dire que la France est un pays génial, mais les inégalités, ils sont après aide sociale beaucoup moins fortes, par exemple, qu'aux États-Unis. Alors après, il faut savoir la société qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société extrêmement inégalitaire, ou est-ce qu'on dit aux gens, si vous n'avez pas réussi à l'école, tant pis pour vous, vous serez pauvre toute votre vie. Et est-ce qu'on donne aux jeunes les moyens de réussir à l'école de la même façon, quel que soit le milieu dont ils sont issus? La vraie inégalité en France, elle est à l'école. C'est qu'effectivement, quand vous venez d'une famille dont le niveau culturel est élevé, vous avez de bonnes chances de réussir. Sinon, vous avez très peu de chances de réussir. Et on sait qu'en France, une bonne partie de votre destin se joue à 20 ans au moment où vous avez un diplôme. Si vous avez le bon diplôme, ça marchera toute votre vie. Si vous ne l'avez pas, vous êtes fichu. Il y a très peu, si je puis dire, de rattrapage en cours de vie. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que les gens qui sont autour d'Emmanuel Macron sont tous d'excellents élèves. Ils ont réussi à l'école parce qu'ils venaient souvent, pas tous, mais souvent de familles où le capital culturel, comme on dit, le bagage culturel est très important. C'est cette inégalité-là qu'il est très compliqué, de corriger en France.
Emmanuel Macron, Yann Mins, qui a enfin obtenu une victoire politique avec l'adoption de la loi sur la SNCF, la réforme de la SNCF, votée par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Oui, bien sûr, c'était en même temps, vu la majorité dont il disposait dans ces deux assemblées, c'était assez probable. On va voir maintenant si c'est un échec pour les syndicats, si effectivement le mouvement va mourir de sa belle mort.
Alors, si la CGT a annoncé qu'elle continuait la grève en juillet.
Tout à fait, mais il va falloir voir si le front syndical, comme on dit, se fissure ou pas.
Alors Yann, on va changer totalement de sujet et on va terminer l'émission avec ça. Terminons avec la disparition d'Yva Tornère, la reine de l'accordéon, toute une époque. L'accordéon, l'instrument vedette en France, à une certaine époque, justement, Isabelle Chenu.
Avec Yvette Horner, c'est un peu de la France populaire des années 50-60 qui disparaît. Première femme à avoir remporté la Coupe du Monde d'accordéon en 1948, un instrument qui fera sa gloire et auquel sa mère l'avait attelé dès son plus jeune âge, elle sera pendant 11 ans la mascotte du Tour de France cycliste. Juchée sur le toit d'une traction avant, en robe multicolore et sombrero mexicain, la musicienne à la chevelure de jet jouait sans relâche des succès de guinguette comme la Java bleue ou le Petit Vin blanc, encouragé par un public qu'il adorait. Yvette Horner a vendu plus de 30 millions de disques. Jusqu'à un âge avancé, elle a donné des concerts sillonnant la France, en duo avec des pianistes classiques, élargissant son répertoire à Michael Jackson ou David Bowie. Son personnage de petite femme, toujours impeccablement maquillée et coiffée, inséparable de son instrument de plus de 15 kilos, était parfois moqué par ceux qui la trouvaient passée de mode. Erreur, le couturier Jean-Paul Gaultier en avait fait une égérie dans les années 80, relookée, habillée de tenues extravagantes, arborant une crinière rousse flamboyante, elle s'offre une seconde jeunesse, se produisant sur les plus grandes scènes aux côtés d'artistes pop.
Yann, je ne vais pas vous demander ce que vous pensiez d'Yvette Horner, quoique.
C'est pas ma musique préférée, je vais vous l'avouer très franchement.
Mais en revanche, je m'adresse aux critiques de jazz, l'homme qui connaît très bien ce genre de musique, où l'accordéon a fait son apparition.
Il y a même eu des passerelles très importantes. Alors, pas forcément dans les années très très récentes, mais dans les décennies précédentes, entre le musette, alors pour parler d'accordéon musette du style dans lequel jouaient notamment Yvette Horner et d'autres, il y a eu des passerelles très importantes pour une raison simple, c'est que dans les années 30 notamment, beaucoup de jazzmen, y compris des jazzmen connus comme Django Reinhardt, ont joué dans des balles pour gagner leur vie, parce que le jazz, ça ne nourrissait pas son homme. Donc il fallait effectivement, quand on était musicien, jouer dans des balles, et dans des balles à l'époque, c'était les discothèques de l'époque, et ça, on jouait toute la nuit. Et on jouait avec qui? On jouait avec des accordéonistes souvent, parce que c'est eux qui faisaient danser les gens sur la Java, etc., toutes ces affaires-là. Et il y a eu des passerelles. Du coup, les musiciens de musette sont mis aussi à jouer du jazz. Et il y avait un accordéoniste très connu qui s'appelait Gus Wieser, qui est très connu dans les milieux du jazz parce qu'il a été une des passerelles. Et plus récemment, il y a eu Marcel Azola, par exemple. Si les auditeurs connaissent la chanson de Brel, t'as voulu voir Vesoul, on avait Vesoul. À un moment, Brel dit chauffe, Marcel chauffe à son accordéoniste. Et c'est Marcel Azola qui a joué avec des jazzmen extrêmement, extrêmement réputés. Plus près de nous, il y en a d'autres. Richard Galliano, évidemment, qui est probablement un des plus connus dans les années récentes. Donc il y a des passerelles entre le musette, l'accordéon et le jazz indubitablement.
Ce qui veut dire que l'accordéon n'est pas mort finalement, il continue sa vie sous une autre forme.
Continue sa vie, et puis il faut dire qu'il y a eu aussi un autre instrument qui lui ressemble mais qui est simplement un cousin, qui est le bandoneon, qui est plutôt argentin avec Astor Piazzolla et d'autres, et qu'effectivement il y a des musiciens qui jouent les deux et tout ça se mélange peut-être beaucoup plus que ce n'était le cas avant, certains musiciens jouant à la fois de l'accordéon et du bandoneon.
En tout cas c'est toute une époque et c'est une certaine France qui est meurtrique, la disparition d'Yvette Horner.
Oui, je pense que
parce qu'on l'entend encore sur certaines radios dans toute la France, de l'accordéon.
Bien sûr, je pense qu'il y a un attachement. Je ne sais pas combien de temps il va durer, parce que peut-être que c'est un attachement d'une génération. Alors, heureusement, aujourd'hui, on vit plus longtemps, donc on est nostalgique plus longtemps de ces jeunes années. Je ne sais pas si ce sera le cas plus tard, mais on va probablement voir aussi rejouer l'accordéon différemment, et peut-être des jeunes musiciens s'en saisir pour en faire des choses improbables en le mêlant avec des sons électroniques, par exemple.
Merci Yann Mince, on va vous retrouver bientôt dans cette émission, début août, par exemple, pour une semaine d'actualité. Toujours pas de pronostic pour la Coupe du Monde, l'équipe de France, non?
Non, que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne. Une semaine d'actualité réalisée, bien sûr, par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée, et je vous recommande notre rencontre avec Régis Debray, un des intellectuels français les plus connus dans le monde. Il raconte sa vie, son œuvre dans un entretien et nous parle de son dernier livre en date, une lettre à son jeune fils Antoine. Passionnant, vous le constaterez. Demain dimanche à 17h10, heure de Paris, et sur le site de la radio RFI.fr. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.